Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaine nouvelle ?
Nouvelle vilaine.
Vilaine nouvelle.
Nouvelle vilaine. Nouvelle vilaine. Vilaine nouvelle. Nouvelle vilaine. Histoire. Eh bien, bonjour. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous en avez entendu parler, mais il paraît que c'est la crise. Oui, la crise. On n'a rien vu venir. Ça fait des années qu'on était tranquille, qu'on était peinard avec nos petits sous. Et puis, d'un seul coup, là, c'est la crise. Et puis, c'est la crise vachement grave, savez-vous. Alors moi, en bon citoyen, je me suis penché sur le problème et j'ai cherché des solutions je me suis dit mais comment on peut sortir de la crise de la dette ? Alors la première idée qui m'est venue à l'idée, c'est la méthode Philippe Lebel. Un petit rappel là pour ceux qui connaîtraient pas cette méthode. Philippe le Bel, un de nos bons rois de France, avait sérieusement endetté le royaume et c'était la crise quoi. C'était la crise, l'État était en quasi faillite. Alors le Philippe, il avait trouvé une méthode vachement chouette. Il a fait emprisonner ses banquiers, qui étaient les Templiers. Il les a fait juger vite fait, condamner au bûcher, et il a saisi tous leurs biens. Résultat, plus de crise. Bon, c'est radical, mais il paraît que maintenant, cette méthode peut difficilement être appliquée. C'est dommage, mais il va falloir trouver autre chose. Alors moi, je vais vous faire part de trois solutions possibles. D'époque, une époque de responsabilisation. Il faut un responsable. Ah, c'est fini l'époque du « c'est de la faute, t'as pas de chance hein. ». Ah non, maintenant, quand un avion se casse la gueule ou quand quelqu'un tombe sous les roues du métro, c'est forcément la faute à quelqu'un. Et c'est soit de la faute du fabricant, soit de la faute de l'exploitant, celle de l'usager, ou comme d'hab, hein, c'est la faute aux lampistes. Même les inondations qu'on attribue généreusement au réchauffement climatique. Ah, et quant au réchauffement climatique, c'est selon les convictions des accusateurs, de la faute aux industriels, de la faute aux capitalistes, de la faute aux centrales nucléaires, sans parler de la faute des vaches qui, comme chacun sait, pètent beaucoup trop. Non, un responsable. Il faut un responsable. Tiens, le trou de la sécu, hein ? C'est qui le principal responsable du trou de la sécu ? Les salauds qui se font mettre en congé maladie ou le médecin qui prescrit l'arrêt de travail, hein? Ah, c'est pas facile, hein. Mais quand même, si on veut être honnête, faut bien reconnaître que la fraude à la sécu n'est que la partie émergée de l'iceberg du trou de la sécu. Et que le vrai responsable, c'est le malade. Ah bah oui, hein. Une sécu sans malade serait une sécu bénéficiaire, pas de trou. Une sécu bénéficiaire, c'est une évidence. Quant à notre régime de retraite, c'est la même chose. Pas de retraités, pas de déficit. Sans compter que sans malades et sans retraite, eh ben le coût du travail baisserait de façon drastique. Hein, puisque le salaire différé, enfin, le salaire différé, c'est le vrai nom de ce que le patronat appelle les charges sociales. Le salaire différé, eh ben, il n'aurait plus lieu d'être du tout. Remarquez que ça résoudrait pas tout, hein, puisque du coup, je n'ose pas imaginer le nombre de pharmaciens, de médecins, d'infirmiers et des autres personnels qui consacrent leur vie au service de ces salauds de malades, et qui, tous ces personnels, se retrouveraient d'un jour à l'autre au chômage. Sans compter la suppression pure et simple des énormes profits engendrés par notre florissante industrie pharmaceutique. Ah non, c'est qu'il s'agit de penser à tout quand on se penche sur ces problèmes. Supprimer les retraites, par exemple, engendrerait la mort quasi certaine de l'industrie des boules de pétanque, des associations de pêcheurs à la ligne, sans même parler des organisateurs de voyages du troisième âge ou du marché ô combien juteux des maisons de retraite. Non, par contre, il est évident que la suppression des malades aiderait grandement la filière des pompes funèbres dont la devise est, comme chacun sait, « Un bon vivant est un vivant mort ». Mais en fait, le raisonnement que je viens de tenir est faussement vrai, et même plus précisément vraiment faux. En effet, prenons un cancéreux au hasard, hein. On n'arrête pas de lui répéter, le trou de la sécu, c'est de ta faute, t'avais qu'à pas fumer. Ouais. Mais quand on y regarde bien, voici un cancéreux qui a travaillé 40 ans, qui était payé au SMIG. Alors, il aura payé 1300 euros, hein, grosso modo, multiplié par 70%, c'est-à-dire le salaire différé ou comme dit le patronat, les taxes sur le salaire. Il aura donc payé 1300 euros multiplié par 70%, 900 euros par mois de charges sociales, hein. Enfin, de salaire différé, quoi. Soit, sur 40 ans, la bagatelle de 900 euros multipliée par 12 mois, multipliée par 40 années, 432 000 euros. Et s'il a fumé, disons, un paquet de clopes à 5 euros en moyenne par jour, il aura payé 5 euros multiplié par 80% de taxes, c'est-à-dire 4 euros par jour de taxes, sur 40 ans, 4 euros multiplié par 365 jours multiplié par 40 années, 58 400 euros de taxes. Soit, en tout, il aura versé, en fait, 490 400 euros de charges sociales ou de taxes. Alors, supposons maintenant que notre cancéreux touche sa retraite pendant 5 ans avant de crever. Ben, évidemment, il a le cancer, alors il va pas durer longtemps, hein. Donc, il aura touché de retraite 70% de 1300 euros par mois, son salaire, hein, son SMIG, donc il aura touché 900 euros par mois, multiplié par 5 ans, donc multiplié par 60 mois, soit 54 000 euros, c'est-à-dire un peu moins de ce qu'il aura payé comme taxe simplement sur ses paquets de cigarettes. Pour se soigner, parce qu'on va le soigner quand même, hein, on va pas le sauver, un cancer du poumon c'est mortel, on nous le dit assez, donc pour le soigner en pure perte, on va lui attribuer des soins à la louche pour, allez on va dire 200 000 euros, hein, qui va coûter à la sécu. Donc, 200 000 euros qui coûtent à la sécu, plus 54 000 euros de retraite sur les 5 ans qu'il va les percevoir, il aura donc on lui aura reversé, on va dire, 254 000 euros. Ce qui fait que, comme il aura versé en salaire différé et en taxe tabac 490 400 €, et qu'il aura touché 254 000 € eh ben, on aura fait 236 400 € de bénéf. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il suffirait de 1 million de cancéreux de 65 ans atteints du cancer du poumon pour qu'en moins de 10 ans, la crise de la dette soit définitivement résolue. Hein ? En effet, 1 million multiplié par 236 400, ça fait 236 milliards par an. Hein ? Et maintenant, on proteste contre les méfaits du tabac. On va me dire, oui, mais enfin, bon, c'est pas pour une raison, pour donner le cancer à tout le monde, pour sauver la France de la crise de la dette. Oui, enfin bon, mais c'était une méthode, c'est une proposition pas plus idiote que celle qu'on nous propose à l'heure actuelle. En tout cas, j'ai une autre méthode, et là, qui est nettement plus écologique. Ça s'appelle le tri total. Ah, que de progrès depuis l'époque lointaine où les braves gens se contentaient de jeter leurs ordures par la fenêtre au risque de verser le contenu d'un pot de chambre sur la tête du malheureux quidam qui passait par là. Ah oui, non, depuis nous sommes passés de la décharge publique et du tas de fumier au ramassage pour tous ou presque, même dans les campagnes. Et oui, nous voici à l'époque du tri sélectif. Les matières biodégradables d'un côté, le verre d'un autre, et enfin le papier et le métal dans un deuxième sac. Ah oui, j'oubliais, il y a aussi un ramassage des cartons, enfin en particulier pour les commerçants quand même. Bon, il est indéniable qu'il reste des progrès à faire. Dans un premier temps, il faut, c'est évident, séparer le fer et le papier. Hein ? Donc ça nous mène à 5 ramassages. Les matières biodégradables, le verre, le papier, le métal et le carton. Toutefois, on ne peut pas se faire la remarque que dans les matières biodégradables, toutes ne devraient pas être traitées de la même manière. Ainsi, les coquilles d'œufs. Ouais, les coquilles d'œufs. Elles peuvent être une source de calcium appréciable. Alors si nous mettions nos coquilles d'œufs dans un sac séparé et qu'elles soient rassemblées dans une usine de retraitement, ça ferait moins de gâchis. Hein. De même, les épluchures de patates. Nous faisons tous des épluchures de patates bien trop épaisses. Là, je m'adresse aux quelques retardés qui ne se nourrissent pas encore de frites surgelées ou d'autres plats cuisinés en vente dans le grand supermarché, non. Mais ces plures de patates, il serait possible de récupérer cette pulpe de pommes de terre et d'en faire, je sais pas moi, de la purée, par exemple. Il est donc évident qu'il est urgent de mettre en service le ramassage des épluchures de pommes de terre. Et si on tient compte du nombre de légumes, de fruits, de cucurbitacées, de légumineuses et autres denrées qui pourraient être recyclées, nous arrivons à la conclusion qu'il faut de toute urgence organiser un service de ramassage pour 58 sortes de déchets courants recyclables. Bien sûr, cette évaluation ne tient pas compte des déchets rares, comme les œufs de caviar, par exemple. Non, il est à noter que cette initiative créerait des emplois. En effet, il paraît impossible que le service de ramassage des ordures d'une ville, et ce, quelle que soit sa taille, puisse passer de 5 à 58 ramassages différents sans embaucher. De même, la multiplication des véhicules s'impose, d'où une augmentation substantielle de la production automobile lourde. Ici aussi, cette demande créera la nécessité d'investir dans de nouvelles chaînes de production, d'où de nouvelles embauches. Il ne reste pas moins que j'imagine mal 58 sacs de déchets d'hiver dans un coin de ma cuisine. Ça ferait désordre. Il conviendra donc que chaque cuisine soit équipée d'un local à déchets de taille respectable. Ah, cette modification de l'habitat sera bénéfique pour les entreprises de bâtiments qui se verront sollicitées pour mener à bien cette tâche. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer l'ampleur du marché concerné. Le chiffre reste à vérifier, mais on peut raisonnablement estimer qu'il doit y avoir quelque chose comme 30 millions de foyers dans notre beau pays. Et cette formule de tri total permettrait donc la construction de 30 millions de locaux à ordures. C'est toute l'industrie du bâtiment qui prendrait un essor insoupçonné de nos jours. Et que dire du nombre de sacs plastiques qui seront nécessaires pour mener à bien ce projet? La demande sera multipliée par 29, étant donné qu'aujourd'hui, seules les matières biodégradables non triées et le papier ferraille font l'objet d'une mise en sac. La consommation, à raison d'un sac pour chaque catégorie de déchets, sera de 1740 millions de sacs plastiques par semaine. Ce qui, pour une année, nous mène à 89 milliards et 580 millions de sacs. Une révolution pour l'industrie du sac plastique. Et il faudra bien sûr aussi construire des usines de retraitement et les faire fonctionner. Il va donc de soi que dans ces conditions, nos presque 4 millions de chômeurs actuels ne seront pas suffisants pour occuper les postes créés par cette formule de tri total et nous serons contraints à avoir recours à de la main-d'œuvre étrangère. Autre conséquence. N'ayant plus de chômeurs, le pays fera de considérables économies. Le déficit de la sécurité sociale sera résorbé en deux temps trois mouvements et je ne vous parlerai pas des rentrées fiscales diverses qui bénéficieront de cette initiative. Les impôts sur le revenu, les impôts fonciers et toutes sortes de taxes qu'il nous reste à inventer. Je suis même certain que d'autres avantages auxquels je n'ai pas songé découleront de cette pratique. Mais en tout cas, une chose est sûre, l'avenir appartient aux ordures. Thank you. on nous le répète assez, la solution à la crise, c'est la croissance. Mais la croissance, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, la croissance, c'est consommer plein, consommer beaucoup, consommer de plus en plus. Et à ce sujet aussi, j'ai la solution. Alors, d'abord, il faut bien se rendre compte que pour dépenser plus, donc consommer plus, eh ben, il faut gagner plus. Eh oui. Moi, par exemple, si on double le montant de ma retraite, eh ben, je suis prêt à dépenser le double de ce que je dépense à l'heure actuelle. Je suis même prêt à m'engager à tout dépenser. Et je suis bien sûr que la grande majorité des Français seraient entièrement d'accord avec moi. Je propose donc que l'on double le montant de tous les salaires. Ouais, ouais. Mais, en contrepartie, il s'agit que les bénéficiaires de cette mesure s'engagent à dépenser intégralement le montant de leurs revenus. Et quand je dis tous les salaires, allons plus loin. Les revenus, que ce soit les revenus des banquiers, que ce soit les revenus des footballeurs, que ce soit les revenus de Madame Bettencourt, que ce soit les revenus du Clodo de Coin, tout devra être dépensé. Je m'explique. Cette mesure, l'obligation de dépenser l'intégralité des revenus, doit être appliquée donc à l'ensemble des revenus, y compris pour les riches et les très riches, hein, je précise. Alors, comment réaliser cette méthode ? Eh ben, c'est très simple. Il suffirait que tous les revenus soient mensualisés, versés en début de mois, hein. Et à la fin du mois, toute somme non dépensée serait automatiquement reversée dans les caisses de l'État. Bien sûr, alors, il faudrait veiller à ce que les sommes dépensées concernent uniquement les biens de consommation, hein. Il n'est pas question qu'un très riche achète 18 maisons dans le mois, etc., etc. Non, non, non. Non, uniquement ce qu'il peut consommer. Et avec cette méthode, les pauvres ne seraient donc plus pauvres, les riches seraient quand même riches en début de mois, et l'État rembourserait ses dettes en deux temps et trois mouvements. Sans compter que la croissance, alors là, la croissance, je vous dis pas, tout le monde aurait intérêt à consommer, et le plus possible avant le 30 du mois, hein? Les très riches pourraient, par exemple, changer de voiture tous les mois, faire 8 à 10 repas par jour arrosés de Romanée-Conti, ce qui aurait quand même pour conséquence évidente la montée de leur taux de cholestérol et ce qui contribuerait à la croissance de l'industrie pharmaceutique. Les gens se précipiteraient dans les cinémas, les théâtres, afin d'arriver à dépenser leur pécule avant la fin du mois. Les marchands de fringues crouleraient sous la demande, les entreprises embaucheraient à tout va pour faire face à cette demande. Enfin, plus de chômage, plus de trous de la sécu, et tout le monde, ou presque, irait baffrer au restaurant. Bref, je vais pas vous faire dans le détail, mais il est évident que c'est la solution. Oui, alors je sais, vous allez me dire, oui, mais l'inflation. Eh ben quoi, l'inflation ? L'inflation, c'est dommageable que pour les gens qui ont des économies. Et avec mon système, vu que tout ce qui n'est pas dépensé à la fin de mois retournerait dans les caisses de l'État, plus personne n'aurait d'économie. Donc plus personne ne serait lésé par l'inflation. C'est tout ce qu'il s'agit de démontrer, enfin. Eh bien, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que toutes ces propositions feront réfléchir les politiques. Je me demande même quand même si... Est-ce que je vais oser me présenter ? Je sais pas, je vais réfléchir. En attendant, je vous dis au revoir, à la prochaine fois, même heure, même endroit. Merci Nico qui toutouille les boutons derrière la vitre. Et à la prochaine fois.